Zonzon Zef, la radio du coin.
1, 2, 1, 2. Bonjour à tous.
C'est toi qui parle.
Arrêtez de me regarder, là, je bloque.
Rigolez pas, me regardez pas, parce que sinon je vais pas...
Oh. Zonzon Zef, la radio du coin.
Un sens pour les câbles, des fois.
Ça, c'est fort.
Bonsoir.
Ouais,
non,
mais attends, je vais prendre le micro comme ça. Mais...
Non, bah oui, parce que on va peut-être le refaire sans écho, mais c'est sûr, ça va faire trop d'écho.
Bonjour à tous et bienvenue sur Zonzon Zef, émission enregistrée en direct de la maison d'arrêt de Blois, en partenariat avec Studio Zef 91.1. Et vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur studiozef.fr. Et cette semaine, on a une nouvelle équipe avec nous, donc on a Jimmy. Si tu veux
Enchanté. Te
présenter.
Enchanté. Moi, c'est Jimmy, hein, Blaisois, de okay. Blois.
Avec nous, on a aussi Armand, qui était déjà là dans la précédente émission.
C'est ça, tout à fait.
Un habitué.
Ouais, c'est ma troisième participation à l'émission.
Excuse-moi,
je suis un ancien.
Et Thomas, qui
bonjour
était
à tous. Donc moi, c'est ma deuxième émission aussi de radio, et je suis ravi d'être ici avec vous pour parler des addictions.
Exactement.
On parle des addictions aujourd'hui.
Dès aujourd'hui, je sais pas, mais c'est ce qui est prévu, je crois.
Ah, c'est bien.
Ah bah tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus. Ouais.
Des addictions.
Ouais.
Ah, vaste sujet.
Ouais. T'as pas d'expérience personnelle, toi ?
Je suis en train de réfléchir, non. Vous avez des fumeurs autour de la table de
ouais, moi, personnellement, j'ai eu ma période. Parfois, voilà, hein, c'est pas évident d'arrêter aussi. Hein. Puis, bah, comme on disait, on en parlait la fois, il y a des petits réseaux de soins comme ça, où on peut avoir VRS ou autre, où on est accompagné pour essayer d'arrêter de fumer.
Ouais.
Mais bon, après, voilà, hein, c'est pas évident quand ça fait longtemps qu'on fume.
Bah oui.
Un certain nombre d'années, comme on disait tout à l'heure, ça fait 15-20 ans.
Ça fait 20 ans que tu fumes.
Ouais, moi, pour ma part, ouais, ça faisait un petit nombre d'années quand même.
On parle quoi, de tabac ou de cannabis là ?
Le cannabis, là, cannabis on, parle, ouais. Ouais, on parle de cannabis. Là.
Ah ouais, t'as commencé à quel âge ?
Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans.
Ouais,
aujourd'hui, okay. J'ai 39 ans.
Ouais, donc, voilà. On est à peu près de la même génération.
Voilà, donc après, j'essaie de minimiser un peu avec le sport. Donc quand je fais du sport, je fume moins.
Ouais.
Mais bon, après, c'est pareil. Hein, là, on est incarcéré, mais c'est pour la sortie après. Voilà, faut vite se réinsérer, travail, tout ça, parce que sinon.
Ouais, en fait, faut s'occuper.
Exactement.
Faut s'occuper directement.
Ouais, je pense que l'ennui, c'est une des raisons de la consommation de stupéfiants.
Ouais. Et les habitudes.
Et les habitudes.
Les habitudes, parce que moi, je vois. Enfin, c'est la question, hein, quand on ressort déjà, comment on va ressortir d'ici ? Parce qu'on peut ressortir aussi avec un appartement qui n'est plus le sien, avec plus aucune thune, selon comment on s'est fait avoir la vie qu'on avait. Hein, voilà, on connaît le truc, mais en retournant dehors, est-ce qu'on va retourner à nos habitudes et au plus facile, c'est-à-dire retourner dans les petits trucs illicites ou est-ce qu'on va se faire violence et aller chercher du travail et suivre soit se faire accompagner avec VRS comme ici ou dans des KERU, des trucs comme ça. Est-ce que en fait il faut beaucoup de courage aussi pour réussir à se conditionner et à faire que sa vie soit normale sans le produit quoi. Et c'est ça le plus.
Toi, tu as été touché par des addictions particulières,
ouais,
Jérémy.
Ouais. Ah bah ouais, ouais.
Moi, tu peux nous en parler.
Moi, c'est l'héroïne depuis l'héroïne et le cannabis, héroïne depuis plus de 15 ans maintenant. Ça doit faire entre 15 et 20. Au début, je détestais ça. Hein. Je me suis
tu t'es rendu malade.
Embrouillé avec des amis. J'avais un ami qui s'était mis dedans. C'était mon meilleur pote. Je lui avais volé son produit pour le vendre. Il était devenu fou, je vais ramener les sous, je m'étais dit, parce que je le voyais se détruire, quoi. Puis finalement, je me suis fait avoir pareil, quoi.
Ouais.
Et j'en ai perdu 5-6 des amis avec ce produit-là. Et pourtant, on y revient toujours, tu vois, c'est compliqué.
Mais tu pourrais te dire, qu'est-ce qui t'a fait commencer ? C'est quoi ? C'est dans un milieu festif, on t'a proposé, t'as commencé
à... Non, moi j'ai commencé déjà à fumer des joints beaucoup, tu vois. On était dans des petits villages de Bretagne, tu vois. Et là-bas, c'est l'alcool très jeune, tu vois.
Ouais.
T'es très vite mis face à des parents qui, eux aussi, boivent, qui laisse un peu les choses aller, tu vois. D'en parler, même, ça me remue un peu, parce que, tu vois, ça remonte à loin, mais...
Ouais.
J'ai commencé, je devais avoir 16 ans, tu vois. Je me suis jamais piqué, tu vois. mais je les consommais en fumant et c'est quasiment aussi addictif que de se piquer. Mmh. Donc en arrivant ici, ça faisait 5 ou 6 ans que je n'avais pas connu de jour où j'en consommais pas.
Ouais, d'accord.
Ah ouais, ok.
Donc c'est compliqué d'arriver ici dans une boîte de 9 mètres carrés, tu vois, avec juste un traitement de substitution.
Donc les débuts, ils ont mis un traitement substitutif direct, en place.
Ouais. Mmh. Que j'avais jamais suivi de ma vie de consommateur, tu vois.
On t'avait jamais proposé?
En fait, j'avais essayé d'arrêter, mais dans ma tête, je me disais toujours que ça suffirait pas, tu vois, que je serais toujours dans le mal si j'en avais pas, tu vois. Enfin, dans ma tête, c'était impossible de vivre sans. Mmh. Tu vois. Puis je bossais comme un acharné en plus. Donc,
est-ce que c'était le cas concrètement de vivre sans être dans le mal?
Je l'ai jamais vraiment expérimenté. T'as jamais essayé, en fait. Tu vois.
Ouais.
C'était dans ma tête, quoi. Même le traitement de substitution que je prenais ne faisait pas effet parce que je me bouffais la tête à me dire que ça marcherait pas. Tu vois.
Ouais, que ça serait pas aussi efficace, voilà, que la substance en elle-même.
Et du coup, là, le traitement que tu suis, ouais, là, est-ce que ça t'aide un petit peu? Et parce qu'ils te descendent un, ouais, petit peu normalement les...
J'ai découvert que je pouvais vivre sans le produit avec, d'accord, un traitement de substitution, tu vois.
Ouais, donc c'est déjà
et de me réveiller le matin sans avoir envie de consommer, de, tu vois. Ça, je le connaissais quasiment pas, quoi.
Ouais, c'est une bonne façon d'arrêter, ouais, de retrouver un peu les effets négatifs, faire un petit peu la balance bénéfice-risque,
ouais,
et de voir qu'en fait, il y a plus de...
C'est ça.
Plus de risques de, ouais, de continuer à consommer, quoi.
Bah ouais, tiens, comme tu as la parole, là, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ta vision un peu des choses.
Tu as les deux côtés de la pièce, toi, en plus.
Ouais, moi, je pense que c'est très dur d'arrêter. Il faut être motivé. Mmh. Et parfois, en effet, je pense que là, il faut voir dans la détention une manière de se couper de toute tentation, on va dire, avec une difficulté, hein, des accès aux produits qui est parfois nécessaire pour envisager un sevrage sur le moyen terme et sur le long terme. Après, moi, pour ma part, c'est vrai que moi, la toxicomanie, j'ai un ancien, un toxico depuis 15 ans. Moi, c'était la cocaïne par toutes les voies, hein, que ce soit par voie nasale ou par voie intraveineuse. Mmh. J'ai fait 2 cures et je suis à nouveau, enfin je suis là ici en prison pour...
C'est comme une cure aussi.
Ouais, oui, faut voir ça comme une, plus dur, comme une cure, ouais, comme une cure de sevrage,
une,
ouais,
cure imposée.
Avec moins d'accompagnement, on va dire. Ouais, et même malgré les 2 cures, voilà, il y a pas que du positif, il y a pas que du négatif non plus. Ça m'a beaucoup apporté, même si j'étais pas abstinent à zéro, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que tu considères que ça t'a apporté?
Au niveau psychologique, ouais, on va dire, plein de techniques, ouais, pour déjà on te, voilà, s'il faut déterminer en fait pourquoi tu consommes, quelle est la cause, est-ce que,
ouais,
c'est un manque
dans ta vie,
que ça soit un manque physique ou un manque sentimental, voilà, c'est déterminer en fait la cause qui t'a poussé à consommer. Une fois que t'as déterminé cette cause-là, c'est vrai que c'est facile,
c'est, vrai que
c'est plus facile de pallier après pour
n'importe quelle drogue, ouais, c'est important, ouais, de connaître la cause, ouais,
de savoir voilà quelle est la cause qui est responsable de ta conso, ouais.
Ouais.
Moi, ce que je retiens là devant tous les témoignages, c'est que tous vous avez commencé jeune,
ouais,
et que vous avez eu accès à des produits dans un cadre proche.
Ouais, ouais, ouais.
Donc moi, j'ai commencé dans un café.
Ça, t'as commencé.
Je disais tout à l'heure, ouais, j'ai commencé à 16 ans, c'est accessible, ouais, très très vite. Hein.
Ouais, c'est ça.
Des cursus scolaires, des fois, même au collège. Hein. Aujourd'hui, tu regardes au collège, la jeunesse d'aujourd'hui, bah, ça commence très tôt. À 14 ans, ils sont déjà en train de fumer. Parfois même, des fois, ils passent à des drogues bien plus hautes. Nous, de notre génération, on fumait du cannabis ou des trucs comme ça. Maintenant, t'as les ballons, t'as les trucs comme
moi,
ça.
Là, 86, c'est une jeunesse qui... 86, enfin, on est de la même
âge, tu vois.
Il y avait pas tout ça.
Il y avait pas toutes ces drogues-là. Maintenant,
on a commencé tôt à fumer.
Synthétique, mais... bien plus dur même encore.
C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. C'est facile d'avoir des drogues de synthèse. Ça, c'est flippant aussi. Hein.
C'est ce qui m'affole un peu. C'est-à-dire que si maintenant nos jeunes écoliers ont accès, apparemment, facilement à ce genre de...
Très facilement.
Ça pose quand même des questions.
Mais c'est flippant parce que ouais.
C'est flippant. Est-ce qu'il y en a qui sont parents là autour de la table, qui ont des enfants?
Non. Ouais, moi perso, ouais, j'ai une petite fille, ouais. Une petite fille de 16 ans.
16 ans.
Ouais. Donc collège t'étais... déjà. Donc,
ah oui, d'accord. Donc tu étais vigilant déjà sur ces points-là.
Vigilant quand je peux, ouais. Quand je suis pas là. Ouais, ouais. Sinon, moi, je suis très vigilant autour de ça. Je fais attention.
J'essaie. Et donc sur le pour continuer, est-ce que vous avez eu accès facilement à des processus de soins, oui, voilà, que ce soit des cures ou des entretiens avec des psys ou psychiatres, comment ça se passe
à l'extérieur, c'est déjà, il faut que ça vienne de toi, ou alors il faut que ta famille soit assez inquiète de ta santé et que tu inquiètes assez ta famille ou que tu sois assez proche d'elle pour qu'eux te forcent ou t'incitent à aller te faire soigner. Mais sinon, tu peux. Enfin, moi, j'ai caché ma toxicomanie à tout le monde, enfin, caché. Eux aussi, c'est difficile pour tes proches de venir vers toi aussi. Enfin, ils savent pas trop comment.
On s'isole aussi. Hein.
On s'isole, voilà. On fait tout pour que ça se voie le moins possible et qu'on évite le sujet, quoi. Enfin, moi, je sais que je les voyais moins. Donc, les centres de soins, ça a été plus avec des petites copines où il a fallu essayer ou ça l'a pas fait. Et puis,
t'as pas eu une réflexion où t'es dit non là je consomme beaucoup niveau financier
tous les
jours, c'est plus possible
tous les jours
j'arrive moi, plus à assurer au travail
sans mentir si je dis les sommes que j'ai dépensées là dedans
c'est faramineux
c'est faramineux mais moi j'ai une entreprise où je bossais comme un acharné du lundi au dimanche mais j'y ai passé tout mon fric quoi. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros dans une vie de consommateur. Quoi.
Mais est-ce que pour autant, ça t'a dissuadé en te disant, bon, non, là...
En fait, moi, de toute façon, je ne voyais plus ma consommation comme quelque chose, comme un plaisir, ou comme... c'était plus un fardeau. Je consommais pour être normal, entre guillemets. Plus pour me défoncer la gueule, ou c'était pour ne pas être malade, et pour pouvoir aller travailler, et avoir une vie... sans crise de manque ou tu vois j'ai toujours fait attention à avoir ce qu'il fallait pour être on va dire dans un état stable tu vois je prenais un traitement de substitution au final donc
par anticipation
que...
tu prenais du produit ou par voilà. anticipation
exactement
pour te dire,
exactement il faut j'en que j'ai beaucoup
cette quantité là présente pour être bien sinon exactement. Je vais pas être bien je vais voilà. pas assurer ouais.
c'est ça j'en consommais pas plus je me faisais un stock je faisais pas le fou à en consommer plus pour autant mais j'avais la crainte de ne plus en avoir.
De manquer.
Donc,
voilà.
Et du coup, on fait toujours ce qu'il faut pour en avoir. Quoi. C'est toujours pareil. Tu cours derrière, sinon.
C'est une drogue qui est très, très dure, ça.
Bah ouais, ouais.
C'est dur d'en sortir, en plus.
Ah oui, oui.
Mais celui-là qui arrive, après, c'est un grand pas, quand même. Ouais. C'est beaucoup de courage et tout ça. Hein.
Bah,
parce qu'il y en a qui y arrivent, quand même.
Ouais, bah oui, oui. Bah, de toute façon, à force de tout perdre, tu... Ouais. Tu vois, tu te dis, tu perds et tu construis rien, surtout. Tu vas arriver presque...
Et vous en êtes où, justement, par rapport à ça le fait
on est là.
En vrai, à l'âge qu'on a, là, j'en discutais avec mon co, il a dit une phrase qui est... On est à la croisée de nos vies, en fait. C'est vraiment... Ouais. C'est aujourd'hui que ça se joue, parce qu'on est... On est à la croisée de nos vies, quoi. Est-ce qu'on continue
la drogue,
là-dedans, ou est-ce qu'on se prend
la vie,
en main.
C'est ça, hein, la vie, c'est une question de choix.
C'est ça.
Après, il faut prendre les bons choix dans la vie, arriver à un certain âge. Je pense que c'est vraiment, ça. Comme on dit, arriver à 40 ans,
on y est,
pour
là.
Moi, c'est... Voilà, c'est
on y est, les gars.
Faut prendre la drogue, c'est ça, ça peut t'emmener en détention. Et
voilà. Voilà, c'est ça.
Bah, la question, c'était plus, est-ce que, dans le cadre du... Est-ce que vous vous sentez aidé dans votre volonté de sortir de ces addictions
ici,
que ce soit... Ici ou quand tu as fait la démarche à l'extérieur, que ce soit médicalement, est-ce qu'il y a des structures qui peuvent t'apporter le soutien?
Il y a des structures, ouais. Il y a des structures. Moi, c'est la volonté que j'avais pas.
Il y a des structures. Après, oui, faut vouloir les suivre aussi. Il faut avoir cette volonté, envie d'arrêter. C'est tout ça. La personne qui a pas envie.
C'est le plus important. Hein, c'est la volonté.
Ouais. Bah oui. Après, puis le soutien quand même. C'est bien d'avoir. Il faut avoir du soutien aussi parce que ça se fait pas tout seul. Hein, c'est enfin, sinon, puis ne pas voir aussi le fait de reconsommer comme un échec et de se dire bon bah ça y est, c'est encore, j'ai encore replongé ou tout de suite de se dire de se jeter la pierre. Bon, il y a forcément des échecs, mais il faut pas les voir tout de suite comme une rechute et se dire eh ben merde, tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien, c'était des efforts pour rien. Il faut se laisser le droit de chuter, mais il ne faut pas non plus se laisser abattre. Et,
donc du coup,
il faut repartir
concrètement, tu veux entamer une démarche d'aller mieux, tu veux te faire suivre. Comment tu fais concrètement ?
Eh ben, il y a des centres comme enfin, moi je prends mon cas à Tours, il y a Port-Bretagne où il y a des XAPA, des Kérud, c'est la Croix-Rouge qui fait ça, je crois, ou je sais plus, je vais dire une connerie. Mais en tout cas, il y a des centres qui sont là avec des médecins pour t'écouter. Il y a des psys, enfin il y a tout un tas de monde qui peuvent t'aider en réalité. Si tu veux vraiment, même ici, tu vois, moi j'ai vu du monde. Et il y a des très bonnes personnes qui m'ont aidé, à qui j'ai pu parler.
Tu vas les solliciter directement parlant de ton... Ouais.
On fera le point avec nos intervenants. Voilà. C'est sûr qu'il y a des centres pluridisciplinaires avec des addictologues, des psychologues, des assistantes sociales, ces choses-là qui permettent d'envisager un sevrage sur le long terme. Alors après, on verra avec nos intervenantes, mais je crois qu'il y a plusieurs... Il y a le paradigme qui a changé un petit peu, c'est-à-dire qu'avant, on disait qu'on admettait une tolérance zéro, en fait, pas de consommation du tout de produits dans le cas d'un sevrage, et maintenant, on en revient un petit peu à ça. Maintenant, on permettrait à la personne de pouvoir consommer de temps en temps et d'avoir une consommation, en fait, raisonnée
du produit.
Ça limite les effets de manque trop à la mode brutal.
Mais en fait, je pense que comme ça, la personne arrive à se dire que... à s'en détacher d'elle-même, en fait. C'est pas de se dire on arrête pour toute la vie. Parce que ça, c'est de dire pour toute la vie, c'est... Ouais, c'est un peu lourd, quoi. De se dire, demain, je fumerai plus jamais de bédo. C'est idiot, en fait, de se dire ça.
Puis d'arrêter d'un coup, comme c'est ça, surtout. Je pense que diminuer légèrement. Ça vient tout seul.
Et après, de se dire, on peut se laisser, par exemple, le droit de fumer le week-end, ou tu vois, se laisser des moments où tu peux, jusqu'au jour où t'en es plus besoin, tu vois. Mais de pas se mettre des freins ou des barrières tout de suite infranchissables, ça sert à rien, ça marche pas, de toute façon.
Parfois, des fois, comme on disait la dernière fois, ça peut être des épreuves de la vie aussi.
Ouais.
Parce que parfois, tu as des gens qui tombent dans l'alcool ou dans le stupéfiant. Parfois, c'est des épreuves de la vie qui font que. C'est pas nécessairement parce qu'il a voulu. Il suffit d'un décès ou autre, une cause, et puis ça va vite.
On est tous différents, on réagit tous de notre manière. Donc, tu peux te réfugier là-dedans parce que tu n'as pas eu une vie des plus simples. Il y a tellement de raisons de se réfugier là-dedans, entre guillemets, réfugier. Moi, je vois, ça a été comme une amie. Hein. C'est une compagne de route, moi, que je me disais.
Ouais.
Et malheureusement, une compagne de route qui n'est pas très bénéfique pour ta santé, quoi. Mais bon.
Est-ce que tu te souviens les moments qui t'ont fait commencer, la drogue ou quoi ? Il y a eu quelque chose dans ta vie de particulier qui a fait que
j'ai eu un peu sinueuse, on va dire. Donc... il y a eu quelques moments où, on va dire... moi, j'étais toujours avec du monde, en fait. Tu vois, je faisais pas mal de musique, j'en étais toujours avec du monde. Donc, on bougeait beaucoup. Donc, il y a eu tellement de moments où tu rencontres des gens, tu fumes un peu, puis tu te poses.
Au gré des rencontres.
Voilà, une chose en amène une autre, et puis une soirée, et puis tu te laisses tenter. Ouais. Et puis après, ça va très vite. Ça va très vite.
Ouais.
Voilà.
Alors dans l'émission, on a deux invités qui font partie de VRS, Vers un réseau de soins, qu'on va laisser se présenter. Et on aura aussi le témoignage d'un animateur radio ancien alcoolique qui viendra nous parler de sa situation et des moyens qu'il a mis en place pour envisager le sevrage. On va faire une pause musicale.
Très bien, c'est cool.
Saint-Ouen ou avec une go en train de marquer un point. Moi j'ai les murs de mon monde à tenir, et comme je ne vais pas rajeunir, comprends que j'envisage mon avenir. Toute ma vie tient dans mon crâne et deux sacs de sport, pas plus. Pourtant j'ai des bagages et même un bac plus. On me demande si ça va et je réponds oui, car j'ai la fierté des braves d'avoir su construire avec des gravats. Pour fuir la routine il aurait pu y avoir le travail, mais pour ce qu'on y gagne mieux vaut être riche et polygame. Rien ne m'appartient, même pas mon disque, non, ni les mètres carrés que j'habite dans l'arrondissement. Je suis riche d'autre chose et peut-être bientôt ex-pauvre, car riche d'une prose qui explose. Je suis bien dans mon coin avec mon joint, mon stylo et mon flash. Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici.
Rien ne nous appartient.
Tout ce que je possède est en moi. Je n'ai reçu pour l'amour avance que celle de femme superbe. On veut mener la grande vie, mais y'a des illusions qu'on a dû perdre. Donc à défaut que ce soit aisément, on cherche à vivre intensément. On n'attend pas de toucher le fond pour remuer ses membres, car tous les scénarios sont possibles. Moi j'avance doucement, mais pas parce que mes chevilles ont grossi. J'suis dans mes dépenses au moindre frais, ouais. Comme plein de refrais, ouais. J'bave devant les agences de voyage et les points de retrait, avant que ne défile mon générique de fin et les noms de ceux qui ont un rôle de loin ou de près. Je sais qu'ailleurs y'a pire que les coins où je crèche, mais que partout c'est dead quand tu n'as rien ou presque. Mais que tu possèdes un building ou que tu te battes pour sortir de l'ombre, il ne reste sur nos tombes qu'un nom et deux nombres. Les modes de vie qu'abrite ce monde sont sans rapport. La liberté, l'égalité, c'est dans la mort. Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Mais est-ce qu'il ne nous reste que la loterie, les sports équestres, la Ligue 1 ou le business pour remplir ses caisses? On a une mentalité si culturellement urbaine qu'on oublie que les vraies richesses sont naturelles ou humaines. Normal, on s'y perd, avoir autant d'exemples d'opulence obscène. Au moins je sais que ce n'est pas pour mon blé que mes proches m'aiment. Nos vies ne sont pas telles qu'on les voyait. À la longue, on n'y comprend plus rien, comme si on nous parlait sans les voyelles. Rien ne m'appartient, mais rien n'est plus cher à mes yeux que les gens que j'aime, ils sont ceux que j'ai de plus précieux. Ici on perd souvent de vue ce qui est important, la famille, l'accomplissement de soi, être bien portant. Mais on le sait, le fric fait la différence. Vraiment, faites-en, vivant sainement et en profitant pleinement. Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici.
Rien ne nous appartient.
Tout ce que je possède est en moi.
Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Tout ce que je possède est en moi. Tout ce que je possède est en moi. Tout ce que je possède est en moi.
De la pause musicale avec un morceau de Flint, Rien ne nous appartient. Et donc, avant d'enchaîner sur l'émission, nous avons le directeur de la prison, monsieur Léonard, qui va s'exprimer sur l'émission de radio, sur le thème et l'activité en elle-même. Voilà.
Donc, j'ai souhaité consacrer une émission Zonzonzef sur une thématique qui concerne les addictions, puisque au niveau de la maison d'arrêt, on a bien sûr l'unité sanitaire qui intervient. Du centre hospitalier de Bois, mais aussi le XAPA et le CARUD, dans le cadre notamment des conduites addictives. On a des personnes détenues qui sont confrontées à des addictions, et je tenais vraiment à leur rendre hommage, puisqu'il y a une vraie prise en charge ici au niveau de la maison d'arrêt, et aussi qui se continue à l'extérieur, lorsque les personnes détenues ont été libérées. Et voilà, on a des publics qui sont confrontés à des problèmes de dépendance, d'usage à risque et aux substances psychoactives, les consommations de drogue, et donc on doit les accompagner pour qu'ils se sortent de ces addictions. Donc voilà, c'est vraiment une émission qui a une importance toute particulière, et je tiens vraiment à rendre hommage au XAPA, au CARUD et à toutes ces personnes qui interviennent au niveau de la maison d'arrêt.
Et aujourd'hui, nous allons donc avoir un nouvel entretien avec des nouveaux invités, enfin des invités. Olivier, à côté de moi, malade alcoolique, Ophélie et Aurore, donc l'équipe VRS de la maison d'arrêt de Blois. Et vous n'entendrez plus Jimmy aujourd'hui, car il est malheureusement transféré avant d'avoir pu faire cette dernière émission. Donc voilà, peut-être qu'il l'écoutera à un moment, on espère. Voilà.
Donc on va demander à nos invités de se présenter. Donc Olivier, si tu peux dire quelques petits mots sur toi, sur ton parcours.
Ouais, bonjour, se présenter. Donc je suis malade alcoolique, ça fait 8 ans que je suis abstinent, mais on peut pas se dire ancien malade alcoolique, hein. Je pense que ça reste une fois qu'on a dérapé une fois. ça reste après. Je suis retraité, voilà, j'ai été 20 ans conducteur de bus ici à Blois, chauffeur de bus, délégué syndical d'action. Et puis j'ai été pilote de bateau sur la Loire pendant 10 ans. Et donc là, je m'occupe, j'encadre, j'anime plutôt deux groupes de parole par semaine sur la Maison des Provinces à Blois, tout près d'ici, hein, juste derrière la prison. Et je travaille en référence au service d'addictologie de l'hôpital de Blois, au 9e étage, avec un médecin addictologue.
Okay.
Très bien. Qui a passé une thèse, lui, sur le sujet des patients experts. On pourra en reparler si vous voulez, si ça vous intéresse. C'est-à-dire que c'est des médecins qui pensent que l'expert, c'est le malade alcoolique. C'est la personne addicte. Hein. C'est elle qui sait la souffrance, la douleur et toutes les galères par où elle est passée. Et que le médecin, il est là pour apporter les médicaments et les traitements et les conseils, etc. Mais voilà.
Petite question, c'est pour ça que vous avez décidé de parler, ou est-ce que vous étiez conscient déjà que votre parole pourrait aider des gens, ou...
C'est-à-dire que moi, mon parcours de soins, il est passé par un addictologue hors pair qui s'appelle Gilles Demigneux. Hein, c'est pas la peine, il est très connu. Il est en retraite maintenant, mais il continue à bosser, même en retraite, sur le sujet. Hein, il a passé 40 ans à lutter contre l'alcool. Et travailler avec cette personne-là, après, tu t'arrêtes plus, quoi. Tu as vraiment envie d'aider les autres et aider à sortir de la galère si tu peux, parce que c'est un ennemi, c'est vraiment, il faut le dire, c'est une saloperie. L'alcool, c'est une saloperie, quoi. Mmh. Pour à peu près 20% de la population, je pense. Oh, c'est oui. Vraiment grave. Les autres, ils se débrouillent, ils ont soi-disant une consommation raisonnée, etc. Raisonnable. Mais il y a des personnes, c'est la galère, c'est la descente aux enfers.
J'avais une petite question à te poser, Olivier. On avait, avec les collègues la dernière fois, échangé sur le sujet, et on se disait que ton avis, comment se fait-il que l'alcool soit en France soit aussi imprégné, que ce soit culturellement et surtout que ce soit vraiment accessible aussi facilement, et notamment auprès des plus jeunes?
C'est un vaste sujet, hein, c'est un vaste sujet. L'alcool, il y a les lobbies. Il y a des gens qui bossent sur l'alcool, qui ont besoin. C'est un marché, hein, c'est du pognon, hein, c'est comme pour les drogues, hein, c'est pareil. Hein. C'est un marché énorme. Bon, à côté de ça, l'alcool, ça reste pour beaucoup d'entre nous un médicament. Hein. Il y a un moment dans notre vie, c'est le seul médicament qui apporte du bien-être, du réconfort, qui te calme par rapport à toutes tes angoisses, tes anxiétés. Mais à un moment, ça devient délétère, quoi. C'est toujours pareil. C'est la différence entre une drogue délétère et une drogue qui ne l'est pas. Le boulot, c'est une drogue, mais c'est moins délétère que de l'alcool qui fout le foie en l'air et tout.
Alors, on a aussi avec nous aujourd'hui Ophélie Aurore, bonjour, de l'équipe VRS, qui interviennent toutes les deux en partenariat avec la maison d'arrêt de Blois. Et on va pouvoir poser toutes nos questions.
Donc merci en tout cas de l'invitation. Donc moi c'est Aurore, je suis éducatrice spécialisée donc sur Opelia VRS 41. J'interviens depuis 12 ans à la maison d'arrêt de Blois sur le dispositif du XAPA référent. En fait c'est une mission nationale. Il y a des mi-temps d'éducateurs dans chaque établissement pénitentiaire au titre d'un XAPA. Et donc l'idée c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui sont incarcérées, et moi j'interviens plutôt dans le cadre de la préparation à la sortie de détention.
Bonjour à tous, moi c'est Ophélie, éducatrice spécialisée, je travaille à Opelia VRS au CARUD, plutôt dans la réduction des risques, et j'interviens également à la maison d'arrêt, deux demi-journées par semaine, au titre du XAPA référent aussi. Sur la base du volontariat, en fait, les personnes peuvent venir me voir. Moi, j'interviens plutôt auprès des personnes qui sont en attente de jugement ou les peines un peu plus longues. Donc, on est sur quelque chose de... on ne prépare pas la sortie et on essaye de travailler cette abstinence qui peut être forcée quand c'est une incarcération et qui peut permettre de prendre un peu de recul et d'envisager les choses différemment, d'avoir un autre œil sur nos consommations, en tout cas.
Merci à vous deux d'être ici avec nous aujourd'hui. Je voulais juste revoir avec vous, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs structures en fait différentes, VRS, XAPA, CARUD. Comment ça s'articule un petit peu, toutes ces différentes structures entre elles?
Alors, effectivement, dans chaque département, vous avez des XAPA, des CARUD, donc c'est deux missions totalement différentes. Et après, vous avez des associations qui portent ces établissements. Donc, par exemple, VRS Opelia 41, on porte deux établissements, donc ça comprend le XAPA et le CARUD. Donc les CARUD, les XAPA, je laisserai Ophélie parler plus précisément des CARUD. Mais alors les XAPA, c'est des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui peuvent être spécialisés dans différentes prises en charge. Par exemple, VRS Opelia, nous on est spécialisé plutôt autour des stupéfiants, addiction sans substance. Mais il y a certains départements où ça peut être généraliste. C'est-à-dire que toute personne confrontée à des consommations de produits peut solliciter un XAPA. C'est les principes d'accueil d'XAPA, donc c'est de la libre adhésion, c'est de l'anonymat, de la confidentialité et la gratuité. Donc c'est-à-dire qu'une personne peut solliciter à n'importe quel moment au cours de son parcours, qu'on soit dans des consommations, on se questionne un petit peu, on a besoin d'informations, on a besoin d'un peu plus de soutien pour être dans une meilleure gestion, dans des consos un peu plus adaptés à ce qu'on souhaite, ou alors être vraiment dans de l'arrêt. Donc l'idée d'XAPA, c'est vraiment s'adapter aux envies des personnes, aux besoins, et vraiment de travailler autour d'un mieux-être. En fait, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais vraiment faire en sorte que les personnes, elles soient bien ou pas avec, avec ou sans produit. C'est des équipes pluridisciplinaires. Donc encore une fois, VRS Opelia, nous, c'est équipe de médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs. Au niveau du Loir-et-Cher, donc vous parliez des différentes structures qui existent. Donc il y a CARUD, XAPA, l'hôpital bien sûr, hein, avec les services addictologiques, les groupes de parole portés par différentes associations. Le XAPA, effectivement, dans le Loir-et-Cher, c'est Opelia VRS spécialisé dans les stupéfiants et Addiction France, eux spécialisés dans l'alcoolologie. Donc voilà, on est vraiment dans un département où on a deux XAPA spécialisés encore aujourd'hui. Mais vous allez dans d'autres départements, ça va être généraliste dans le 45, généraliste dans le 37. Ça, ça
après,
dépend.
Après, il y a les centres de cure.
Et après, effectivement, il y a aussi les centres de cure. Mais alors là, on est sur une autre démarche. Les XAPA, c'est vraiment de l'ambulatoire. Les personnes, elles viennent sur un rendez-vous d'une heure, elles repartent. Et puis après, c'est en fonction de à quel moment elles ont besoin ou pas. Et les post-cure, on est vraiment sur un moment où on est en dehors de son environnement. On va être hébergé sur un lieu de soins pour une durée qui peut aller d'un mois à trois mois, avec des activités thérapeutiques, des prises en charge médicales, psychologiques. Et l'idée, c'est vraiment de travailler toujours autour de son parcours de conso, hein, comme un XAPA, mais d'aller un peu plus loin dans la démarche, en tout cas, avec alors, les postes.
L'ambulatoire, c'est quand on soigne à la maison, c'est ça?
Ouais, ouais, c'est vraiment ça.
C'est ça, un mot un peu barbare.
Ouais. Et puis nous, on travaille vraiment très en lien avec l'environnement de l'extérieur, avec le quotidien. L'idée, c'est pas de se cloisonner au XAPA, mais c'est de faire en sorte que tout puisse se réanimer, en tout cas à l'extérieur, au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, au niveau médical, en fait. Et il y a certains entretiens, on parle même plus du produit, en fait. On va parler de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui fait un peu plaisir, de tout ce qui fait un peu souffrance aussi. Et puis de mettre du sens autour de tout ça et de faire des liens, en fait, pour que les gens soient le mieux possible, en fait, dans leur environnement, je dirais. Et les CARUD.
Et les CARUD. Alors, CARUD, c'est Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Donc, on a un local à Blois, on intervient, on a une compétence sur tout le département pour apporter du matériel, soit via des pharmacies, soit au contact des personnes directement qui nous sollicitent. On essaye de développer en dehors de Blois justement notre présence pour pouvoir faire bénéficier à tout le monde en fait le matériel, parce que c'est une politique de santé publique, la réduction des risques, d'avoir du matériel propre. Ça émane en fait de l'épidémie du sida, entre autres, où il y avait des partages de seringues. Donc ça émane un peu de ça, je ne vous refais pas tout l'historique, même si j'aime beaucoup en parler, parce que c'est important de reprendre le contexte. Et donc aujourd'hui, on a un local à Blois, où on accueille en demi-journée, les personnes viennent, c'est libre, gratuit, anonyme. Elles peuvent bénéficier de matériel, elles peuvent bénéficier de douches, d'un accès à la douche, à la machine à laver et d'une petite restauration sur place. On fait un accompagnement aussi social, parce que souvent les personnes qui viennent régulièrement au local, c'est des personnes qui sont en situation de précarité, donc qui sont un peu éloignées de tout le système de droit commun. On a une infirmière aussi, donc qui peut faire la petite bobologie et orienter vers un système de soins. On fait beaucoup d'allers-vers, on a une équipe mobile en collaboration avec le CIS et l'association ONS qui font des tournées de rue, donc qui vont à la rencontre de gens qui ne sont pas encore dans les dispositifs. pour apporter soit un accès au droit commun via le CIS, un accès aux soins avec ONS ou un accès à la réduction des risques avec nous. On fait aussi de l'analyse de produits. Donc on a un réseau régional pour faire de l'analyse de produits. Pareil, c'est gratuit et anonyme. Pour l'analyse de produits, on est des collecteurs pour Synthèse, qui est un dispositif de veille sociale aussi, de veille sanitaire, pardon. S'il y a des nouveaux produits en circulation ou des produits un peu coupés, pas cool, qu'on puisse avertir la population. Et voilà, en gros.
Vous avez des collègues qui bossent dans les écoles aussi, non?
Alors c'est au niveau du XAPA, ça, ouais, c'est le service de prévention. Elles interviennent beaucoup dans tout le milieu scolaire en fait dès la maternelle et jusqu'au secondaire.
Dès la maternelle, c'est-à-dire?
Alors,
dès la maternelle.
C'est pour développer les compétences psychosociales en fait, pour prévenir que les enfants en fait qui vont devenir des adolescents, il y aura des expérimentations de produits. C'est humain, hein, c'est l'exploration, hein. Mais d'être capable de dire non, de dire oui, mais en toute conscience, en tout cas, de développer les compétences psychosociales.
Travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi aussi, qui est important.
D'accord. Ouais,
c'est bien grandir, en fait. C'est vraiment les compétences de base.
C'est bien, c'est bien. C'est bien.
Donc, évidemment, qu'en maternelle, on ne va pas parler de cocaïne, mais
il y a une manière.
C'est plutôt les écrans. On va plutôt parler des écrans, par contre.
Commencer à parler des écrans, un peu du tabac en CM2, mais en maternelle c'est vraiment maternelle CE2 parce qu'ils interviennent grande section CE2 et après CM2. On est vraiment sur les compétences psychosociales, vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, comment la communication, comment interagir les uns avec les autres en fait aussi des fois, comment être bien à l'aise dans un groupe. Enfin c'est un peu tout ça qui va être Et souvent, c'est un peu la base aussi de comment se sentir bien quand on grandit, quoi.
Bien sûr.
C'est sûr.
Justement, j'avais une question mais qui allait un peu dans ce sens, et par rapport à la prévention des plus jeunes, surtout pour l'alcool. Parce que la dernière fois, avec Jimmy, je crois qu'on en parlait, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Et je sais qu'il a une fille de 16 ans. Et moi, j'ai une fille de 9 ans aussi.
C'est clair.
Et donc,
ça bouge. Hein. On parlait culture tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on est dans un pays où la culture de l'alcool est omniprésente, mais ça bouge, hein, ça bouge.
Parce qu'on servait du vin à l'école collègues. À l'époque.
Exactement, j'ai encore des collègues, l'alcool était à l'école.
Du vin à la cantine.
Ouais.
Et là, on bosse sur des notions de consentement, sur plein de trucs.
Ouais. C'est dingue, quoi.
Ouais. Et moi, je trouve que par rapport à l'alcool, ça a un peu bougé, en fait, ça fait quelques années maintenant que je suis à VRS. Et c'est ce qu'on se disait avec les collègues, où l'alcool commence à avoir une image particulière au niveau d'un public jeune. Mais alors, le contre-effet, c'est qu'ils vont sur d'autres produits, en fait. Le protox, le protoxyde d'azote. Quand on est dans l'adolescence jeune majeur, ils vont plus aller vers tous les produits festifs, l'AMD, l'Exta, etc.
Ouais.
Mais par contre, l'alcool est vraiment mis de côté sur un certain public. Donc, ce qui est aussi questionnant... mais voilà, l'alcool, en tout cas, je trouve que ça commence à émerger. La prévention, les messages de sensibilisation commencent
à... tant mieux, des générations qui ont subi aussi, des parents et des familles qui... Enfin, moi, pour être né en Bretagne et y être resté jusqu'à 18 ans, à peu près, avec ma mère qui est alcoolique toujours... j'ai vu... je compte même plus le nombre de personnes qui sont mortes soit qu'elles sont suicidées, soit qu'elles sont mortes d'une maladie liée à l'alcool. Plein d'amis qui ont perdu leur père, leur mère, ou qui ont perdu la tête.
45 000 morts par an. C'est simple. Parle de 50 000 en ce moment, hein, pas loin. Ça change. Moi, j'ai fait le calcul. Tu divises par 365 jours. Ça veut dire qu'il y a 125 mecs qui dégagent tous les jours à cause de l'alcool. Personne n'en cause. T'as un avion de 125 personnes qui tombent. Là, on va en causer pendant un moment.
Ouais, c'est sûr.
Puis je vois, moi, ça me... Pour finir, à l'époque, quand j'avais 14 ans, on était en 2000. Ouais, on était en 2000. On est pour s'occuper, on était avec nos scooters, notre paquet de Marlboro de 10, et puis on prenait des bières, on allait faire un baby, un billard, et puis mais là-bas, ça choquait personne de nous servir de la bière à 14 ou 15 ans. C'était notre truc.
C'est culturel, c'est ancré.
Ça choquait personne. Donc, me donnait 10 ou 15 euros ou 20 euros, ou je sais plus, non, c'était déjà en euros. Hein. Et puis pour aller acheter une pizza et puis boire un coup, quoi.
Donc,
C'est ancré culturellement dans les modes de...
Ouais.
C'est sûr. Et tu disais tout à l'heure, Olivier, que ta consommation te permettait d'échapper à des sources, des problématiques ou quoi. Je crois qu'on en parlait aussi la dernière fois. Comment se fait-il que nos sociétés soient tellement anxiogènes qu'on est dans le limite dans l'obligation d'aller
chercher. L'alcool c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. c'est des cas individuels, c'est une histoire. C'est le même produit, mais c'est que des histoires différentes, quoi. Bon, moi, il y a une époque, j'ai toujours bu beaucoup régulièrement, mais raisonnablement, jusqu'au moment où il y a des trucs qui m'ont pesé sur les épaules. Il y a une époque, il y a 10 ans, j'avais au moins 4 trucs énormes sur les épaules. Et puis je côtoyais des gens qui consommaient, je pensais pouvoir résister, et puis ils m'ont embarqué, c'est parti. Il y a un moment, ça dérape.
Excuse-moi de te couper, mais ma question, elle était là. C'est que tu viens de dire que tu as consommé parce que tu devais échapper à certaines choses dans ta vie ou quoi. Pourquoi à un moment T, le choix s'est fait sur l'alcool, pas sur le sport ou le voyage? Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a fait que...
J'ai sûrement changé de forme d'addiction maintenant, effectivement. J'ai repris d'autres addictions qui sont moins délétères.
Ça arrive progressivement, en fait. Je pense qu'il y a cette question-là. Au début, comme nous chacun, en fait, l'alcool fait partie quand même des habitudes. On se dit ça nous fait du bien, en fait. Ça nous rend un peu heureux. On a l'impression d'être dans un mieux-être. Ouais, et en fait, après, ouais. On se rend compte qu'avec 2 verres, on était bien. Et puis et finalement, au bout d'un moment, il en faut 3-4, et puis après, il va falloir la bouteille, et puis au début, c'est les soirées. Et puis, mais je trouve que ça vient pas comme ça, on va se dire, je vais pas bien, je vais aller vers les produits. Ouais. Mais on parle de l'alcool, mais pour moi, c'est la même réalité pour tous les produits, en fait.
Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Le problème, c'est que l'alcool, c'est associé à plein de trucs. C'est associé à la santé, à la violence sociale,
aux dépressions,
à l'armée, à l'armée,
dans le sport. La présence de l'alcool dans le sport, c'est complètement dingue. Il faut voir, les mecs après les matchs de foot, les 3e mi-temps, etc.
Mais je trouve qu'on oublie, on oublie quand même que les produits, à la base, ils sont là pour faire plaisir, quoi. Pour se faire plaisir. Et la base, elle est quand même là. Mais pour tous les produits, il y a quand même une forme de plaisir au début. Alors, vous allez peut-être parler plus de votre expérience, messieurs, mais il y a quand même à la base cette forme de plaisir. Et puis, à un moment donné, il y a plein de choses qui se passent, en fait. Et le produit prend une plus grande place qu'on l'aurait souhaité. Et c'est comme ça qu'on parle d'addiction. Mais tout le monde qui est consommateur n'est pas dans une forme d'addiction non plus. Et c'est possible de revenir sur quelque chose de modéré. Ouais,
Le problème, justement, c'est que tu perds le contrôle à un moment. C'est-à-dire, c'est ton cerveau en tant qu'organe autonome qui prend le dessus. C'est lui qui veut sa dose. C'est chimique. Alors, c'est
justement,
biologique.
Justement, à quel moment on peut parler, parler d'addiction?
En fait,
tu perds le contrôle, en fait.
C'est quand... Je voulais apporter, moi, une petite ébauche de réponse, Armand. En fait, c'est pas conscient. On se dit pas, tiens, je vais plonger dans tel ou tel produit pour aller mieux. En fait, c'est les produits psychoactifs, donc l'alcool, mais le cannabis, la cocaïne, vont venir activer le circuit de la récompense. Donc, de manière chimique et vraiment dans le cerveau. Donc, c'est pas une question de volonté, en fait. C'est vraiment, on a un produit qu'on aime bien, qui va venir activer le circuit de la récompense, donc avec une libération d'hormones du plaisir. Et en fait, le cerveau, une fois que ça s'est activé, c'est des hormones qui sont présentes naturellement. En fait, si on fait des choses qui nous font plaisir, ça se fait naturellement, ce circuit-là. Sauf que les produits psychoactifs, ils vont venir l'activer plus fort, plus vite, et sans qu'il y ait de plaisir, finalement, enfin, à part la prise du produit. Et du coup, ça... Le cerveau, il va le réclamer tout le temps.
C'est ça.
Si on n'a pas d'éléments protecteurs pour se dire « j'ai d'autres ressources pour activer ce circuit-là d'une autre manière que par le produit », en fait, le cerveau, il va s'enclencher, il va toujours venir chercher ça. Et c'est là où on peut perdre le contrôle.
Et c'est fondamental, c'est une maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont faibles, on n'est pas faible,
non,
on
n'a pas
manque de volonté, c'est une maladie. C'est-à-dire que tu ne peux plus te démerder tout seul, tu ne peux plus guérir tout seul.
Et je voudrais juste faire... on peut consommer des produits sans être addict. Et on peut être addict sans produit.
Et pour tout produit,
ça.
Et pour tout produit. Ouais, et pour le tout chocolat, produit.
Ouais. Mais même la cocaïne, même le cannabis, même l'alcool, en fait, la drogue, en fait, on peut ne pas être addict. On peut être addict, mais on peut ne pas l'être. Mmh. On peut avoir une consommation très raisonnée.
Moi, si je consommais tous les jours et que j'ai consommé tous les jours, parce que j'avais jamais suivi de traitement méthadone avant d'arriver ici, jamais suivi de traitement tout court, et j'étais dans l'héroïne depuis plus de 15 ans. Mais par contre, même si j'en avais beaucoup, j'avais une consommation en fait pour être toujours dans un état stable, pour ne pas être malade et pour pouvoir être présentable devant les, enfin présentable,
pouvoir travailler,
être debout devant mes clients, avoir faire mon boulot, c'est ça. Et qu'on se dise bon, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche chez lui, mais c'est son truc ça. Et pardon pour le micro. Mais et puis en fait, j'ai réussi jusqu'à un certain temps à contrôler. Et puis après, j'ai mélangé un peu trop de choses. Les problèmes se sont accumulés. Et puis après, ça a dérapé en un peu plus... Ouais, enfin voilà. Après, ça a dérapé, quoi. Mais il y a un moment où... mais c'est là aussi où dire que c'est une maladie, c'est... Pour l'alcool, je pense que maintenant, c'est bien ancré. Mais j'ai l'impression que pour les stups, c'est beau. Ça arrive peut-être, là. Mais je vois, par exemple, ma famille... mon père a mis très longtemps avant d'accepter que je sois malade. Et pourtant, j'ai beaucoup discuté avec lui. Enfin, il me connaît très bien.
Oui, oui.
Il n'arrivait pas à accepter et il pouvait pas comprendre que ce soit une maladie, quoi. Il a mis très longtemps avant de le comprendre, quoi. Et du coup, je pense qu'on se, ouais. Déjà, il faut accepter d'être malade et ça, le comprendre bien le. Et puis là, déjà, c'est un premier pas pour accepter de se soigner, quoi.
La représentation des différentes drogues en fait dans la société, c'est très stigmatisé en fait.
Ouais, c'est sûr.
Donc, forcément, ici, ça fait peser.
Moi, en arrivant ici, le petit blanc qui arrive pour sa première fois en prison, qui va tous les matins à l'infirmerie pour prendre de la méthadone, ça fait vite le tour. Hein. Mais moi, j'avais pas envie de le cacher en fait. Donc je l'ai dit, mais tout de suite j'ai vu que, les gens se disent ah ouais mais lui c'est un schlag, lui c'est. Sauf que moi je l'ai toujours accepté, j'ai été au sport, j'ai repris 15 ou 16 kilos, puis ces mecs-là ils ont vu que, en fait j'ai vu que même eux ont compris que, en fait c'est une maladie quoi. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont changé de regard même.
Changé d'opinion.
Ouais, par rapport au fait que j'assume que tout le monde peut déraper, il n'y a pas que des mecs qui vivent dans la rue, qui prennent de l'héroïne et puis d'abord comment ils sont arrivés. Enfin, ça reste des personnes quoi. Et en fait, c'est l'héroïne, c'est stigmatisant. En fait, ça, c'est plus que la cocaïne encore. On se dit que c'est une drogue de riche encore. On se dit ça encore. Alors que maintenant, on l'a presque au prix de l'héroïne, en vrai, de vrai.
Alors, ce qui est important dans ce que tu dis, Jérémy, c'est que les copines de VRS sont là, c'est qu'il y a de l'espoir.
Ah oui,
c'est une maladie, donc il y a de l'espoir de guérir.
Ouais. Mais moi, je l'ai compris ici grâce à des personnes comme Ophélie, comme la psychologue, où c'est la première fois de ma vie que je vois une psychologue. Ça me fait comprendre des choses. Puis en fait, une fois qu'on commence à discuter, on arrive à poser des mots un peu sur quelques trucs, mais ça reste...
En fait, quand on est dans l'addiction, c'est une maladie, mais on n'est pas qu'un malade, en fait. On n'est pas qu'un héroïnomane ou qu'un cocaïnomane. Il ne faut pas non plus... on est une personne dans sa globalité avec ses forces et ses faiblesses, avec ses défauts et ses qualités, et c'est hyper important de garder ça en tête. Et même si à un moment donné on perd le contrôle sur sa consommation, si on conscientise un peu pourquoi, quel effet on recherche, quel effet on trouve, en quoi c'est notre béquille, il faut vraiment se dire que c'est un outil trouvé à un moment donné, que c'est une béquille. Et
j'ai toujours ce que je dis encore, c'est l'héroïne, c'était un compagnon de route. C'est ça. Hein.
Et on peut pas juste le balayer
seul,
en fait.
C'était boulot pour payer mon héroïne. Je me suis retrouvé à Angoulême sans eau, sans électricité, aller en vélo au travail. Alors qu'Angoulême, si vous connaissez un peu, c'est en vélo, c'est pas très cool. Je payais pas mon loyer, je gagnais presque 2000 euros, j'avais pas d'eau, pas d'électricité, je vivais dans 12 mètres carrés, et puis petit à petit, c'est un cercle après où on a du mal à sortir. À un moment, faut réaliser quoi, qu'on est malade et qu'on a besoin d'aide, et voilà.
Je reviens, encore une question sur l'alcool, Olivier. Tout à l'heure, on parlait de lobby de l'alcool. Par exemple, je pense au tabac. Il y a eu des actions très fortes. Maintenant, sur un paquet de tabac, C'est, mais voilà, donc il a fallu une loi pour ça. Tu vois des images assez hardcore qui te montrent que les dégâts du tabagisme. Pourquoi c'est pas aussi fait dans ce sens pour l'alcool, en sachant que ben, tout ce qu'on vient de dire, ça peut causer des dégâts.
Sur les étiquettes des bouteilles d'alcool, on voit pas.
Ouais, qu'il faut une
à quoi,
loi,
à quoi ressemble un foie, par exemple.
Est-ce que vraiment sur les paquets de tabac, les images choquantes, ça empêche les gens de fumer
On est sur un problème de santé publique, si tu veux. Donc là, on est tous là individuellement responsables de ça, dans nos familles et à l'extérieur, de porter ce discours. Moi, maintenant, quand j'ai des gens qui viennent à la maison, c'est sans alcool. Et je justifie le truc.
Bravo.
Là, je joue au tennis toutes les semaines. On boit l'apéro à la fin de la séance. Sur 12, je suis le seul à boire du jus d'orange. Au début, ça les dérange, mais après, non. Le gars qui vient me chercher sur le sujet.
Ça dérange les autres, alors que ça demande un effort fou de voir les autres boire. Et
c'est très sociétal, ça. Même si ça évolue quand même, heureusement. Mais
C'est dingue. C'est dingue. Enfin, c'est comme ça, malheureusement.
Et on a un devoir de faire changer les choses. C'est les lobbies alcooliers sont très, très puissants. Ils sont partout. Ils sont à l'Assemblée nationale et ils sont comme les labos pharmaceutiques au niveau de la médecine. Hein. Et ils sont infiltrés parce que c'est des marchés. Mmh. C'est du pognon.
Ouais.
Et faut faire quelque chose, quoi. Et en particulier, tu parlais, toi, Armand, de la jeunesse tout à l'heure. Il faut bosser au niveau des jeunes. Ouais. Tout petit, parce que si nous, on a été baignés dans la culture de l'alcool, tout petit.
C'est clair.
Alors justement, on se demandait, y a-t-il une hausse des addictions en France, une augmentation
Alors, moi, j'ai pas la sensation, mais effectivement, on n'est peut-être pas très doué avec Ophélie pour les chiffres. Par contre, ce qu'on peut nous observer, c'est plutôt une transformation des consos. En fait, c'est de la demande et c'est de l'offre, en fait. Hein. Donc, quand il y a un produit qui est plus rentable, eh ben, il va plus vite arriver sur le marché, etc. Et puis, il y a des fois, il y a, par exemple, le Loir-et-Cher, à un moment donné, on ne trouvait plus de cannabis. Et ben, pouf, il y a eu la cocaïne qui est arrivée. Enfin, c'est toujours comme ça. Et en fait, chaque période, il y a des consos
mais
plus.
Là, il y a quelque chose que je vois, que j'ai constaté, puisque c'est pareil, j'ai consommé ça pendant 2 ans, des produits de synthèse. Qui sortent des labos pharmaceutiques. Hein.
Ouais. Et qui sortent tous les jours.
L'Alpha, hein. PIHP, il y a tellement de noms, de MMC, 3MMC.
Mais comment tu procures ces
produits? En fait, ça a commencé.
J'allais sur Internet.
Ah oui, sur Internet. Ouais.
Soit je payais en Bitcoin, soit truc comme ça, je me faisais livrer dans ma boîte aux lettres.
Et ça a commencé en 2002 parce qu'il y a une pénurie d'ecstasy, de MD. D'accord. Et concrètement, là, il y avait quand même un business à se faire. Donc il y a des labos clandestins qui ont créé des produits qui sont similaire, quasi similaire à l'AMD, mais en changeant quelques molécules. Donc, ils n'étaient pas considérés comme stupéfiants. Et ils les ont mis sur le marché avec accès à Internet. Donc, accès beaucoup plus facile.
Incroyable.
Et avec des prix vachement plus réduits aussi.
Ouais. Est-ce que c'est vraiment uniquement des labos clandestins? Parce que, vu la production massive, c'est quand même...
C'est toujours compliqué de retracer, mais potentiellement, hein, pourquoi pas. Je trouverais pas ça aberrant, en fait, que ça, ou en tout cas que ce soit des chimistes, que ce soit des... Et néanmoins, en fait, de passer par le darknet, le net, en effet, et ben, ça redonne du pouvoir d'agir aux consommateurs, parce que on réduit les risques d'aller dans la rue et de choper des trucs de très mauvaise qualité et de se faire avoir. D'où l'intérêt de faire de l'analyse de produits. L'analyse de produits, on peut vraiment se rapprocher des CARUD de chaque département. Il y a aussi le site Psychoactif où ils sont hyper militants et on peut faire de l'analyse de prod à domicile.
Beaucoup de conseils.
Distance,
Et ils ne donneront jamais les endroits où aller. C'est très bon site. Ouais.
Après, un bon indicateur, Jérémy, c'est la misère. T'en parlais tout à l'heure. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans la galère. Mmh. Donc, ça, c'est des consommateurs potentiels, je pense.
Mmh. Ah, oui.
Après, t'as les cartels en Amérique du Sud qui viennent en Europe, etc.
Ah,
il y a
d'autres.
Après, il y a la consommation plutôt bourgeoise des gens qui ont du pognon et qui consomment pour le côté festif peuvent déraper à n'importe quel moment. Donc, c'est pas facile de tirer des conclusions à un moment.
J'imagine bien.
Par rapport à la question tout à l'heure, en effet, une hausse des addictions, je sais pas, une hausse des consommations peut-être, parce qu'en effet, en fait, les gens vont de moins en moins bien, les gens se précarisent de plus en plus et les situations s'enquistent. Donc, évidemment que quand on va très mal, on a besoin de mettre un filtre entre soi et la réalité et du coup, donc, de consommer.
Alors, on voulait savoir comment vous pouviez accompagner en fait les patients, enfin les détenus qui ont présenté des addictions. Quels sont que mettez-vous en place au sein de la maison d'arrêt et des détentions pour cette prise en charge?
Alors, on est plusieurs acteurs pour cette question-là. En tout cas, il y a l'unité sanitaire déjà avec les médecins, les infirmiers. Et puis nous, VRS et aussi Addiction France. On a une collègue d'Addiction France qui intervient. Donc pour l'EXAPA, en tout cas, c'est de la libre adhésion. Les personnes, elles nous sollicitent si elles souhaitent. On peut avoir des orientations. Nous, on va rencontrer les personnes qu'on connaît de l'extérieur aussi pour qu'il y ait une continuité des soins. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une continuité des soins pour des personnes qui ont débuter des soins à l'extérieur, mais qu'il n'y ait pas d'interruption en détention. Et inversement, quand les personnes elles vont sortir, qu'il n'y ait pas d'interruption non plus si elles le souhaitent. Mais encore une fois, c'est le libre choix des personnes. En fonction des produits, il y a toujours une période de sevrage qui va être mise en place en détention, donc accompagnée par le médecin et les infirmiers pour tous les produits. Donc pour l'alcool avec des benzos, pour les consommations de tout ce qui est autour des opioïdes, on peut leur proposer des traitements de substitution aux opiacés, donc tout ce qui est méthadone.
Insiste sur le sevrage peut-être, hein, c'est mortel, ouais. c'est une période très très très...
C'est
très
nécessaire, très... surtout pour l'alcool, en tout cas il est nécessaire et c'est vital. Effectivement, ça peut être mortel, une personne qui arrête brusquement des consommations d'alcool si elle n'est pas accompagnée au niveau médicamenteux.
Uniquement le sevrage avec l'alcool qui peut être mortel.
Oui. Et s'il y a vraiment une dépendance physique, des consommations ponctuales et qu'on n'est pas...
Dépendance physique, c'est là-dedans. Enfin, à quel moment on est addict? On est addict quand il y a de dépendance physique aussi, non?
C'est pas que ça, en fait. L'addiction, ça vient quand, à un moment donné, on a besoin de consommer. Et on sait qu'il y a qu'il y a des conséquences négatives et pourtant, on ne peut pas s'empêcher, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment le corps qui réclame. Et là, on n'est plus maître de ça, fait.
Bah oui, c'est ça.
Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'addiction. Donc, c'est pour ça que c'est une petite partie aussi des consommateurs. Tout le monde n'est pas addict, clairement. Donc pour en revenir à la prise en charge en maison d'arrêt, donc chaque produit va être accompagné. En fait, il y a des protocoles très, très spécifiques. En fait, et encore une fois, c'est le libre choix des personnes. Que ce soit au niveau médical, au niveau de VRS, etc., c'est toujours la personne qui va choisir. On ne peut pas l'obliger à mettre en place des soins, même si la juge, elle évoque que c'est important de faire des soins en détention. Vous n'êtes pas... Enfin, les personnes ne sont vraiment pas obligées. Et puis, en termes de prise en charge, après, c'est essentiellement des entretiens individuels qu'on va proposer. L'idée, c'est pouvoir un peu de parler de son parcours de consommation, de mettre un peu de sens autour de tout ça, et puis de prendre conscience un peu de la place, de la fonction du produit. Et on fait également du collectif avec Ophélie, une fois par mois, en fonction des demandes des personnes aussi. On essaye de s'adapter aux demandes le plus possible, quoi. Mais pour moi, chaque suivi est totalement différent, clairement.
Et en tant que détenu, on a vu qu'en fait, les obligations de soins étaient parfois... comment dire, une remise de peine pouvait être accordée en cas d'obligation
mais
de soins.
Mais en fait... Les remises de peine en maison d'arrêt, c'est toutes les participations à tout. Que vous fassiez des activités, donc que vous alliez voir le médecin, la psychologue, que vous alliez nous voir, Ophélie et moi, vous allez avoir des remises de peine. L'obligation de soins, par contre, c'est une chose encore différente. Elle ne commence qu'à l'extérieur. Si le jugement dit que vous avez une obligation de soins à faire, elle ne va pas commencer en détention. Le temps de l'obligation de soins va commencer à l'extérieur. Après, bien sûr, la juge, ça va avoir des impacts sur les aménagements de peine, etc. Il ne faut pas se leurrer, en fait. Mais encore une fois, ça, des fois, ça peut être aussi la raison de venir nous voir. Et je me dis que toutes les portes, elles sont bonnes, en fait, à prendre. Nous, l'idée, c'est de rencontrer... un maximum de personnes. Enfin, moi, je suis là à un mi-temps. Ophélie, toi, t'es là deux jours par semaine. Enfin, une journée par semaine. L'idée, on s'en fout des portes, en fait, de comment les gens ils viennent à nous. Ça n'a aucune importance pour nous du moment qu'ils y mettent du sens quand ils sont en suivi ensemble, en fait. Et puis, des fois, on peut se dire que c'est pas le bon moment, qu'il faut encore du temps pour aller vers les soins, en fait. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment prêts, même sans obligation de soins, même sans demande du juge, même sans demande du SPIP, en fait.
Pour exemple, j'avais potentiellement un rendez-vous moi le 12 décembre, et au cas où, je ne revienne pas ici, il y avait déjà un rendez-vous qui était prévu le 13, donc
on avait organisé
quand on a
les
envie,
choses,
c'est efficace, et enfin il y a...
on
même
essaye.
Si vous n'êtes pas ici toute la semaine, en tout cas, on peut nous solliciter. Ça a l'air d'être quand même bien géré. Puisque...
Et puis quand il y a les vacances de l'une de l'autre, eh ben, on prend les relais. En fait, on répond au courrier dès qu'on peut. On essaye un maximum d'être disponible et de s'adapter au mieux. Mais non, on a aussi nos limites. Hein. Enfin, voilà. On ne plaît pas tout le monde. Enfin, voilà, j'ai envie de dire. Ouais. C'est comme ça.
Et juste par rapport aux soins, en fait, le soin, c'est pas que les médicaments, le sevrage, l'abstinence, c'est vraiment au sens large. C'est vraiment prendre soin de soi, c'est aussi avoir juste un temps de parole,
ouais,
un espace
ça.
D'échange.
Ben, ça, c'est tout nouveau. Voilà. Et en fait, ouais, c'est vrai que c'est très important, en fait. Mais je pense que quand on est dans une démarche de soins et qu'on se dit « Ah, ben, en fait, j'ai l'impression que j'y arrive », je pense qu'à ce moment-là, on a beaucoup envie de parler et de... pour essayer d'éviter à des gens de soit de tomber dedans, soit de s'enfoncer dedans. Et je pense qu'à un moment, on a envie de témoigner de tout ça. Ou, la parole, que ce soit d'en discuter pour s'en sortir ou pour faire part de son expérience ensuite, je pense que c'est hyper important, en fait. Ouais. C'est la clé du truc, même.
Et c'est une parole tellement riche, vous, en tant que patient expert, en fait. C'est une parole tellement riche, en fait. Nous aussi, on essaye de développer cette action-là au niveau de VRS Opelia, et ça a énormément d'impact, en tout cas, au niveau du collectif.
Le choix, c'est un parcours. C'est un parcours qui est long, c'est un chemin de croix, des fois, ça peut durer des années, toi. Nous, en groupe de parole, on a des copains qui sont à 20-25 ans d'abstinence, qui rechutent, des fois. À 25 ans, poum, rechute, tu sais pas pourquoi, t'as pas compris. C'est pas grave, la rechute, ça fait partie du parcours. Tu mets un genou par terre, et tu te relèves et tu recommences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les groupes de parole, tu parlais de ça, Thomas, tout à l'heure, y en a plusieurs. Hein, quand tu sors de cure ou tu sors de tôle, tu peux aller aux Alcooliques Anonymes, rue Sainte-Anne, tu peux aller au XAPA, les copines du XAPA, là-bas, ils sont super sympas, ils sont vachement accueillants. Il y a Vie Libre aussi, et puis il y a nous, à la Maison des Provinces, dans le cadre d'Entre deux eaux, c'est des groupes de parole entre la Vallée du Cher, qui est un terreau d'alcooliques, avec tous les vignobles qu'il y a, et puis Blois ici.
Un terreau d'alcooliques.
entre deux eaux, entre la Loire et le Cher, quoi, si tu veux. C'est des copains qui interviennent bénévolement, et c'est un parcours, c'est-à-dire effectivement, c'est libérer la parole. Alors on ne parle pas que d'alcool, on parle de plein de choses.
Ouais,
c'est du social, c'est du familial, c'est de l'accompagnement, etc. Et les gens, ils deviennent addicts au groupe de parole. Ils viennent chercher cette parole. Ouais. C'est un lieu d'intelligence, quoi, si tu veux. C'est un lieu d'empowerment. C'est tu prends en compte ton propre destin. Il y a un moment, tu réalises que la vie sans alcool, la vie sans produit, c'est possible.
Puis c'est tellement mieux, je pense aussi.
Ouais, et puis tu découvres une autre personne. Ouais. C'est-à-dire que tout le temps que tu as passé avec des produits, tu t'es masqué toi, ce que t'es, et toutes les possibilités que tu as. Puis un jour, si tu as la chance de découvrir la personne que t'es, eh ben, tu découvres une vie totalement différente, et tu prends des décisions. C'est toi qui décides. C'est pas, tu procrastines plus, tu traînes plus, etc. Toi. Et tu prends vachement de plaisir.
Et toi, du coup, Olivier, maintenant, tu officies dans ces groupes de parole régulièrement?
Oui, je suis animateur. Je fais 23 avec Clémentine, je fais 23 émissions sur Studio Zef.
D'accord.
Ouais, je suis à fond dans toi. Parce qu'il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Si vous voulez, moi, j'ai été syndicaliste pendant 20 ans. Je suis rentré dans la gueule des patrons pour le collectif, pour tout le monde. Mais là, j'ai découvert un combat qui est politique. C'est franchement politique. C'est social, c'est politique, etc. Et avec des gens qui sont hyper sensibles. Tu parlais d'hypersensibilité tout à l'heure. Les gens addicts, ils sont hyper sensibles. Ça les fait chier ce qui se passe dans le monde actuellement. Et c'est des gens hyper intelligents. Et c'est de l'intelligence à l'état pur, quoi, si tu veux.
D'accord.
Moi, j'apporterais juste qu'en fait, l'addiction, c'est la maladie des émotions, vraiment. Et l'abstinence, je voudrais vraiment dire que c'est pas la seule solution. Ça peut l'être à un moment donné dans le parcours, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'abstinence que on est foutu, en fait. Et on peut avoir une consommation
raisonnée, raisonnable.
Ouais, vraiment.
C'est un sujet, parce que le problème, c'est que quand tu retouches, quand tu es abstinent pendant un bon moment, tu te soignes, et si tu y retouches, il y a quand même beaucoup de personnes
ça
qui
réactivent. Hein, bien sûr, je veux pas du tout annuler ce que tu dis et sous-estimer en fait cette maladie, qui est vraiment une maladie. Mais c'est pas le seul chemin non plus. Il y a d'autres chemins.
Ok.
Très bien, super. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très intéressant.
Ouais, carrément.
Très captivant. Merci.
On verra sans doute. Ouais.
Ouais, merci de nous accueillir. Hein. Moi, c'est vraiment une expérience super.
Et puis de vos partages aussi.
Bravo les filles pour votre boulot en milieu carcéral, il faut le faire.
Ouais,
nous, on fait ce qu'on
veut. C'est du bon boulot. Ouais. C'est très utile. C'est puis ça...
En fait, on ne pourrait pas travailler sans les personnes déjà. Hein. Et le savoir expérientiel. On se nourrit de tout ça. En fait, c'est une rencontre humaine. Nous, on n'est pas là au-dessus, professionnel et consommateur et encore plus détenu. Enfin, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est. Bah ouais, complètement. En fait, c'est vraiment un échange. Nous, on a l'apport un peu plus théorique par nos formations et de par tous les profils de gens qu'on peut voir, même s'ils sont tous individuels et qu'on ne fera jamais de généralité.
Vous êtes sûrement aussi une des premières personnes à qui ils commencent à parler de leurs problèmes et de...
Donc c'est vrai que les addictions, ça touche tout le monde. Hein. C'est les toubibs, les politiciens, les enseignants, les pompiers... Les militaires, tout le monde y touche, ce truc-là. Donc il n'y a pas de barrière sociale.
Non, c'est sûr. C'est un des rares trucs où il n'y a pas de barrière sociale.
Ça, c'est démocratique.
C'est ça.
Ouais.
On a un petit rituel dans l'émission, c'est nous soumettre une petite musique qui est en lien avec le thème du jour.
Bien vu.
Est-ce que tu aurais, Olivier, une petite musique qui te passe par la tête qu'on pourrait soumettre aux auditeurs?
Les autres, il y en a plein. Il y en a plein.
Laquelle choisir?
C'est ce qu'on se dit à chaque fois.
À chaque fois, c'est source.
Il y a Renault, forcément. Renault,
c'est bien. On en a mis des anciennes.
Des références vieilles.
On a mis des.
T'as une chanson de Renault là?
On a mis du Johnny. On a mis des.
Du Johnny, ouais. Il y a un peu de tout.
Ouais, Renault, c'est une très bonne idée.
On va trouver quelque chose sur Renault.
On avait passé dans l'émission L'Ivresse des échanges, ça s'appelle.
L'Ivresse des échanges.
C'est où l'émission de radio?
Ça ferait un bon titre aussi.
Oui, ça peut être pas mal.
La parole, c'est vraiment important. Faut porter la parole.
Ouais, je pense que c'est c'est primordial un peu.
On
va
pas parler de la violence, mais la violence et l'alcool, ça prend le coup. Hein,
c'est clair.
Les agressions sexuelles, suicide, agressions sexuelles, etc. C'est lié avec l'alcool. C'est omniprésent. Ouais. C'est omniprésent.
Parce que l'alcool désinhibe. C'est pas parce qu'on boit qu'on va devenir violent. Parce qu'il y a de la violence à l'intérieur qui rejaillit. Plus on enfouit, plus ça va ressortir fort en fait. Et l'alcool désinhibe bien, donc ça.
Les viols, les incestes et tout le truc, ça ressort petit à petit avec ça quand les gens cherchent pourquoi ils ont commencé à boire. C'est infernal. La souffrance.
Okay. Ouais, c'est un sujet où on pourrait échanger pendant
des heures.
Pendant
des heures, effectivement.
C'est
clair. C'est passionnant.
Bien au lade, Renaud.
J'y pensais.
Ouais, j'y pensais aussi, elle est cool celle-là. Ouais.
Bon, bah, Lola, alors.
Ouais, elle est bien celle-là. Ouais.
Ça marche.
Bonne idée.
Merci à tous.
Merci à tous.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos. est-ce que je peux tenir dans mes bras sans démettre une épaule, sans plier sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas. Avec tes miches de rat, on dirait des noisettes, et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas. T'achètes un ami Pierrot, hey. Les bébés ça se trouve pas dans les magasins. Et je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit dans le dos. Ben quoi Lola, on n'est pas bien ensemble. Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux. T'entends pas ce bruit, c'est le monde qui tremble sous les cris des enfants qui sont malheureux. Allez viens avec moi, je t'embarque dans ma galère. Dans mon arche y'a de la place pour tous les marmots. Avant que ce monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu'on a dans le dos. Sweet.